I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va vous expliquer en quoi Sam Altman veut révolutionner l'industrie des semi-conducteurs. On va vous expliquer en quoi le Vision Pro n'est peut-être pas un remplaçant de l'ordinateur, mais peut-être de l'iPad. Et on va débattre un petit peu, encore une fois, sur le court-circuitage de la pub sur le web. Un débat qui est relancé pour deux raisons qu'on détaillera. C'est le rendez-vous tech et c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 552, nous sommes en février 2024. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir des invités de talent et de charme, à commencer par Cédric Ingrand. Comment vas-tu Cédric ?
Écoute, ça va fort bien. Je suis content qu'au bout de quelques mois, j'ai réussi à résoudre les problèmes de réseau qui m'empêchaient de me connecter à Discord. Faut dire que Discord, enfin bon, on va pas faire un débat d'experts, mais Discord, c'est pas l'ami des administrateurs de réseau. Discord, c'est quel port faut-il ouvrir pour utiliser Discord? Tous les ports de 50 000 à 65 536. Ça fait beaucoup quand même. Oui, mais c'est comme ça. On en prend un aléatoire à chaque appel. Enfin voilà. Bon, donc ce problème est résolu. Et donc je te vois, je t'entends.
Oh, c'est
ça
incroyable.
C'est un vrai bonheur, la technologie.
Oui, c'est merveilleux. Merci d'avoir fait cet effort qui fait qu'on a une qualité irréprochable dans le son et l'image et qu'on peut admirer ton doux faciès. On a également le talent et le charme de Marie Turcan qui se joint à nous. Comment ça va, Marie, aujourd'hui ?
Salut, ça va très bien. Je n'ai pas pu mettre ma caméra parce que je suis sur mon téléphone.
Écoute,
mais je suis très contente d'être là.
Tu sais, il fut une époque où quand je faisais des podcasts, je disais « Alors, il faut un micro comme ça, connectez-vous comme ci, faites comme ça. » Aujourd'hui, c'est juste « Non, mais prends ton téléphone, c'est bon. » Voilà, ton téléphone, les merveilles de la technologie. C'est parfait. Merci d'être avec nous. Merci de prendre du temps pour le consacrer un petit peu à l'émission. Et d'autant plus que, comme on le disait avant de préparer, je me doutais un petit peu depuis quelques jours que tu avais eu l'Apple Vision Pro sur les yeux, sur la tête. Donc tu vas pouvoir nous en parler en live. C'est marrant, on a suivi Nicolas Lelouch de la rédaction de Numérama. J'ai même pas dit rédactrice en chef de Numérama, Marie.
Oui.
Nicolas qui a fait le voyage jusqu'à New York pour acheter un Vision Pro. Et qui, du coup, c'est quoi ? Il y en a deux en France, un truc du genre, qu'on peut être un peu...
Oui, non, il y en a plus que ça.
Je crois qu'il y avait pas mal de Français qui ont fait le voyage aussi, mais il y a peu de médias français qui ont fait le déplacement. Après, il y a des gens qui avaient des reporters et des journalistes déjà aux États-Unis. Mais c'est vrai que Nico a vraiment bien organisé son voyage pour pouvoir se déplacer, arriver le premier sur l'Apple Store de la Fifth Avenue pour aller récupérer le Vision Pro. Il l'a ramené ici et puis maintenant... Donc, on fait des tests, mais aussi, on essaye un peu de... Ben, on a pas mal de médias qui sont passés voir l'essayer pour faire des reportages. Lui, il fait un peu la tournée aussi des plateaux pour venir un peu raconter ce que c'est. Je vous avoue, moi, j'ai mis 2 jours à le tester tellement il y avait de l'engouement autour du produit parce que...
Il y a un emploi du temps, un Google Doc
complètement plein. C'est ça, ouais. On a fait un Google Doc. Et puis aussi, on a envie de le faire tester à nos lecteurs et lectrices parce que maintenant, on a un site... On a une version premium de Numérama, donc... À nos abonnés, on a fait un concours pour leur faire venir essayer. Donc, il y a ça aussi. Et donc, au final, ouais, j'ai mis 2 jours à mettre vraiment le casque sur ma tête pour pouvoir vraiment savoir de quoi il s'agit. Du coup, je vous raconterai ça.
Oui, tu nous dis ça dans quelques minutes. C'est marrant, on parlait dans le Discord de la commu de ce voyage, justement, au moment de la sortie, évidemment. On parlait un petit peu de « Ah, alors, il est dispo, il est ceci, il est cela ». Et il y a des gens qui disaient, mais enfin, quand même, Apple qui paye des voyages à la presse française, ils devraient le dire, ils devraient préciser la presse, machin. Je dis, mais de quoi tu parles ? Il y a Nicolas Lelouch. Et je leur dis, mais non, mais pas du tout. Là, c'est pas, le produit n'est pas en France. Et donc, je pense que Numérama, c'est évident, Numérama a payé eux-mêmes. Ils disaient, mais ça coûte cher quand même. Et moi, ce que je disais, mais tu te rends pas compte, c'est une opération de branding folle, quoi. Tout le monde va parler de Numérama. Et je pensais pas que ça serait à ce point-là. Je pensais que l'investissement, évidemment, valait le coup, mais ouais.
Je ne pensais pas non plus pour être honnête. Donc, en effet, on a payé à la fois l'avion et le Vision Pro, donc c'est vrai que c'est un beau déplacement qui coûte un peu cher. Mais en même temps, nous, on fait partie d'un groupe où il y a aussi Frandroid. Donc, Frandroid va aussi pouvoir bénéficier de ce casque et de faire des tests. Et puis aussi, en vrai, comme c'est la première fois qu'Apple sort un produit depuis 10 ans, ça permet aussi de justement venir contrebalancer les influenceurs, influenceuses qui, eux, ont peut-être plus les moyens de venir aller se jeter sur les produits. Et c'est vrai qu'on n'avait pas envie aussi de laisser cet espace juste à des influenceurs et des influenceuses, parce que comme on craignait que ce soit le cas. Alors évidemment, pour nous, c'est un super coup de faire parler Numérama là-dessus, mais aussi de pouvoir venir avec un discours un petit peu plus modéré. Enfin, en tout cas, Nicolas a vraiment... Alors évidemment, il adore les produits et il adore tester les nouveautés, mais à chaque début de vidéo, à chaque début d'article, on précise qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on y allait ? C'est aussi pour pouvoir justement porter un regard sur est-ce que Apple va droit dans le mur ou est-ce que c'est vraiment le futur et ça reste et en vrai pour l'instant ça reste enfin notre avis reste assez modéré sur la question
mitigé on va en parler dans un instant mais oui je crois que à vrai dire encore plus que le Vision Pro ce qui a surpris peut-être toi aussi comme tu le disais c'est les retombées que ça a eu cet investissement qui semble avoir valu le prix quoi.
Mais c'est une très très belle affaire que vous avez fait. Joli coup, Baron. Hein, là, j'avoue que. Non,
et en plus, ça permet de voir un petit peu de quoi il en retourne avec cet appareil. Donc, c'est très cool. Avant de se lancer donc, dans les gros news de la semaine, il y a plusieurs choses que je voulais dire. Première chose, merci pour vos retours super positifs et super sympas sur le hors-série qui a été publié ce week-end sur les 10 ans de Patreon. Parce que oui, ça fait 10 ans que j'ai lancé Patreon. Et j'ai fait un hors-série pour parler de ça, du contexte, de comment je l'ai envisagé à ce moment, de mon état d'esprit, de la vision de l'univers de la création de contenu à ce moment et du financement participatif. Et j'en ai profité pour répondre à quelques-unes de vos questions. C'était une première étape parce que ce lancement de Patreon était très modéré. C'était vraiment pour tester un petit peu. Et puis, ça c'est, j'ai construit quelque chose là-dessus ensuite. Ce n'est pas à ce moment que j'ai quitté mon boulot. Donc, il y aura peut-être un épisode 2 du hors-série Les 10 ans de Patreon dans quelques temps. Mais merci pour vos retours là-dessus. Et d'ailleurs, visiblement, ça a motivé certains d'entre vous à rejoindre le Patreon aussi. Peut-être que vous écoutiez l'émission depuis un moment et que vous vous êtes décidé. Et donc, je remercie Francisco Texera, Gaëtan Nico, Canel Pellisolo, magnifique nom d'ailleurs, Cadel. Maximilien, Damien Mouton, Fricazoïde, tout le monde a des beaux noms, hein, Fricazoïde évidemment aussi, Guillaume Keng, Stéphane et Zoulrak et les producteurs fidèles de l'émission, Lancelot Davizard et Eric Bastin. Merci à vous tous merci pour votre soutien depuis 10 ans et j'espère qu'on sera encore là dans 10 ans pour en reparler. Pour parler de ceux qui ont rejoint maintenant et qui sont patriotes depuis 10 ans. Parce que là, dans le hors-série, je parle de certains qui sont patriotes depuis la première heure et qui ne se sont jamais désabonnés. Donc, un grand, grand merci à vous. Et vous savez que on parle souvent assez, presque de manière intime dans les podcasts et on a construit pendant 10 ans, pendant même plus que ça, hein, parce que 10 ans, c'est le Patreon, mais certains d'entre vous m'écoutent depuis bien plus longtemps que ça. On a construit une relation qui est presque intime entre nous. Je vous parle de beaucoup de choses. Et je voudrais vous parler aussi d'un tout petit truc. Il y a 2 semaines, je vous disais qu'on avait eu un décès dans la famille et que donc... Mais mon émission était préparée, mais peut-être que je ne serais pas complètement aussi pointu que d'habitude. Figurez-vous que depuis 2 semaines, j'ai pris à peu près, 2-3 pelles du même acabit en plus dans la figure. Et donc, je ne veux pas plomber l'émission là maintenant. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus en fin d'émission. Je vous raconterai un petit peu ça parce que j'ai envie d'en parler, d'extérioriser aussi. Pas dans les détails, mais juste pour que vous sachiez, voilà, ce n'est pas le mois le plus facile de mon histoire. J'espère que ça n'entravera pas la qualité de l'émission. Si c'est le cas, Cédric sautera dans la discussion qui est un habitué du podcast pour me remettre sur le droit chemin. Mais voilà.
J'ai préparé 3 ou 4 jeux de mots foireux, t'inquiète pas.
C'est parfait.
Je prendrai le relais.
Donc, il y a des coups de pelle comme ça. Un aurait suffi à me désorienter un peu. Pas super. Je vous en parlerai un petit peu plus. Comme je disais, je ne veux pas plomber l'émission avant même de la lancer. Donc, on va partir sur les infos. Voilà, je retrouve le fil. Les infos de l'émission, les infos à retenir de la semaine. C'est parti tout de suite avec d'abord OpenAI et l'IA en général. Il y a un gros sujet, mais je voudrais parler d'un autre truc qui est en train de se mettre en place. C'est le marquage des images générées par IA qui commence à, alors je ne veux pas dire à se généraliser, mais de plus en plus de sociétés qui font de l'IA commencent à y réfléchir très sérieusement. Et on a OpenAI et d'autres qui ont décidé d'implémenter un système qui est le système du, que je ne vous dise pas de bêtises, le système du C2PA, qui est un groupe de différentes sociétés qui réfléchissent à la manière de marquer au mieux les images générées par IA pour qu'elles soient reconnaissables et identifiables. La première étape, c'est de mettre des watermarks, donc des petits marquages sur l'image elle-même et dans les métadonnées, sachant que ces marquages sont très facilement supprimables, non seulement dans les images elles-mêmes, mais en plus parce que parfois, quand on upload sur les réseaux sociaux, pour ne pas avoir d'informations personnelles identifiables, les réseaux sociaux enlèvent ces métadonnées. Donc, c'est important de le faire, mais du coup, ça va enlever ces métadonnées-là qui sont là pour faire identifier les images générées par IA. Mais il n'empêche, OpenAI, Google, Meta et d'autres sont en train de se regrouper pour travailler au meilleur moyen de s'assurer qu'une image générée par IA soit identifiable. Bon, c'est plutôt une bonne chose, même si je ne sais pas si le travail réussira à porter ses fruits.
Ah, y a plusieurs pistes. Hein. Tu l'as dit, l'enjeu, c'est d'avoir quelque chose où on sort des métadonnées, mais avec des data qui sont embarquées au cœur de l'image. C'est vrai que quand tu vois la liste des membres de C2PA, voilà, c'est Google, Intel, Microsoft, Sony, et en gros, t'as l'essentiel de l'industrie, de la photo, de la vidéo, je vois Canon, Nikon, voilà, tous les gens qui produisent de l'image. Donc, on a pour le coup une chance d'avoir une sorte de standard ouvert du marché qui va arriver, parce que c'est aussi de ça qu'on a besoin. Et ça arrive à un moment où je pense que le besoin est de plus en plus aigu. Comme tu ne l'ignores pas, moi j'ai une société de production, je travaille pour des entreprises à créer de la vidéo, et je fais de la vidéo générée par l'IA, des avatars, je clone des dirigeants d'entreprise pour les faire parler dans plein de langues, bref. Et c'est ce que je dis depuis maintenant presque un an, c'est pas tant la sophistication de ce qu'on voit sortir qui est impressionnante, mais l'accélération du rythme auquel les nouveautés arrivent. C'est-à-dire que de deux mois en deux mois, il se passe des choses. Il y a deux mois, tu pouvais draguer-dropper une vidéo pour la faire doubler par de l'IA dans la langue que tu voulais. Mais bon, il n'y avait pas de lip-sync, c'était juste ça générait la piste audio plus ou moins synchrone de ce que tu disais dans la langue que tu voulais. Et deux mois plus tard, tu drag-drop et tu dis « je la veux en espagnol et en japonais » et c'est parfait, quoi. Et ça, sans demander l'autorisation de la personne que tu traduis. Alors, c'est pas très grave, tu peux dire, parce que tu l'as traduit. Le problème, c'est que quand tu peux aussi générer des avatars à partir d'échantillons qui sont de plus en plus petits et dans une qualité qui est pour l'essentiel maintenant presque irréprochable, on a besoin de pouvoir avoir une signature, un truc, quelque chose qui nous dit voilà, ceci a été généré par XYZ, et de pouvoir en remonter le fil. Parce que si je prends la vidéo de ce podcast, je peux te faire dire à peu près n'importe quoi.
Ah bah, c'est clair. Et d'autant plus... Non, pardon, vas-y Marie.
Non, en fait, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est qu'on arrive quand même assez tard. C'est assez vertigineux de se rendre compte qu'on continue dans la tech en 2024 à aller vite et casser des trucs. Alors, avant de se poser des questions, ça aurait quand même été nécessaire dès le départ. Là, on voit quand même le web commence déjà à être inondé de photos. D'images générées par Dali, par Midjourney, par, comme tu disais, Cédric, des vidéos transformées, etc. Nous, je sais qu'en tant que média, il y a eu une réflexion dès le début sur comment est-ce qu'on utilise l'IA et de quelle manière est-ce qu'on peut, nous, watermarker, nous, en dur, en fait, dès le départ, les images qu'on produit. Donc, c'est ce qu'on fait quand on utilise Midjourney de temps en temps. On a un sceau numérique, un PNG, vraiment un PNG, qu'on applique surtout en dur, en fait, vraiment en dur sur l'image pour que ce soit... Alors, évidemment, après, tu peux photoshopper le truc et tout ça. Ouais.
C'est le problème avec le marquage proposé par le C2PA ou même du recadre. Et puis, voilà,
ça peut aussi. Ouais, voilà. Après, il y a quand même une différence entre les gens qui vont aller modifier les images pour enlever les watermarks. C'est, en fait, les plus grands dangers qu'on a autour de l'IA aujourd'hui, c'est vraiment en termes de volume et ça veut dire en termes d'automatisation. Donc, ce sera génial si déjà 90% des images qui sont produites par IA et publiées sur le web et référencées par Google seront identifiables. Et il y a quelque chose que moi, je trouve notable et plutôt appréciable dans la démarche de Meta notamment, c'est que donc là, ils vont mettre en place plein d'outils pour détecter eux-mêmes les images dégénérées par IA. Mais en amont, là, bientôt, ce qui va sortir d'abord, c'est vous allez vous-même pouvoir cocher une case dans Instagram ou Facebook quand vous mettez en ligne une image pour dire « cette image a été générée par une IA ». Alors, c'est vrai que ça se base sur la bonne volonté des internautes, donc évidemment que les gens pourront mentir, mais je trouve qu'il y a... C'est quand même un pas que j'avais pas vu récemment dans la responsabilisation aussi des internautes en leur disant, mais... parce que comme ça, on pourra aussi les prendre en défaut, en fait. En leur disant, il va falloir que vous mettiez « j'ai tous les droits de cette photo » ou bien « cette photo, je vous jure qu'elle n'a pas été générée par IA », va falloir cocher la case. Et si vous ne cochez pas la case et que vous êtes pris en défaut derrière, peut-être que votre compte pourrait être suspendu, peut-être que pouvoir être puni. Etc. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de rendre actif l'internaute dans ce débat et dans ce combat-là. Et je pense que c'est une manière de faire c'est une des rares manières de faire qui pourra potentiellement faire ses preuves sur le long terme, en fait.
L'idée qu'on puisse, du coup, effectuer une action sur le compte de la personne qui n'a pas fait de bonne foi, qui a été de mauvaise foi dans cette signalisation est important aussi. D'autant plus que, évidemment, la chose à laquelle tout le monde pense dans ce contexte de marquage, c'est les élections. Et 2024, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est une année où il y a énormément d'élections. Et tout le monde a le regard tourné vers les États-Unis, évidemment, mais il n'y a pas que celle-là. Il y en a qui sont beaucoup moins visibles, dans lesquelles l'utilisation de l'IA peut avoir des effets néfastes. Bon, je ne sais pas si ce marquage aura un impact là-dessus aussitôt, mais je crois que la conclusion, c'est que c'est bien qu'on s'intéresse à cette étape du développement de l'IA. Un sujet qui est vraiment lié, qui est beaucoup plus concentré sur OpenIA, qui d'ailleurs a des revenus annualisés, ça veut dire qu'on extrapole les revenus sur l'année, ils sont de 2 milliards a priori, les revenus d'OpenAI. C'est pas mal hein, quand même pour une petite boîte qui vient de se lancer presque. Sam Altman n'est pas content de juste avoir, ne se contente pas plutôt, d'avoir juste transformé l'industrie de l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Il veut désormais révolutionner, peut-être que le mot est mal choisi, mais il veut transformer l'industrie des semi-conducteurs. Et pour ce faire, il est en train de lever de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels et notamment du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Et il veut lever, alors on dit il veut lever de l'argent, vous dites ok, il veut quelques centaines de millions, un milliard ou deux, non. Il veut lever, selon les sources du Wall Street Journal, 5 à 7 billions de dollars. Ça veut dire 5 000 à 7 000 milliards de dollars. C'est un chiffre qui est tellement élevé que auprès de qui tu lèves ce genre d'argent? Enfin, clairement, auprès des gouvernements.
Des États, monsieur.
C'est ça. Le but étant très ambitieux de transformer l'industrie des semi-conducteurs. Dans un premier temps, en tout cas, l'idée est d'enlever à NVIDIA le quasi-monopole qu'ils ont sur les puces qui sont spécialisées dans l'IA et donc dans l'établissement de modèles de langage et ce genre de travaux. Il est vrai que NVIDIA est la société qui a anticipé tout ça, qui s'est préparée à l'IA il y a des années. Il y a presque 10 ans, ils ont vraiment commencé à s'y mettre. Et du coup, ils ont les puces les plus performantes qui sont le plus demandées. Et la crainte de Sam Altman est que ça impacte négativement le développement d'OpenAI, de l'IA en général, mais de OpenAI en particulier. Et il veut donc, lui qui a le vent en poupe et qui est légitime dans l'IA, sans doute, il semblerait construire des fonderies, développer des technologies, faire du design de puces, etc., pour avoir d'autres acteurs dans ce milieu. Alors, on se doute bien que Intel, AMD et d'autres sont déjà sur le coup. Mais profitant du vent porteur d'OpenAI et sur sa personne à lui, hein, Sam Altman, ben, il semble qu'il veuille se lancer là-dedans aussi. J'arrive pas à comprendre des chiffres comme 5 000 et 7 000.
Oui, c'est ça, le côté. Et puis pourquoi 5 000 ou, je,
y a, y a Alors, quoi Il a fait son calcul, hein, il a fait une feuille Excel et puis il dit ah, ok, donc il m'en faut 5 000.
Non, mais il y a quoi entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars, tu vois, enfin, il n'y a rien. Enfin, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait recréer de zéro toute l'industrie du semi-conducteur. Mais tu vas le faire avec qui? Parce qu'il faut quand même des gens. Enfin, c'est,
y a, ah bah voilà, quand tu as 5 000 milliards de dollars, tu as de quoi recruter des gens, hein, et des savoir-faire. Et
ah oui, mais alors tu vas aller les prendre là où ils étaient déjà. Enfin, c'est, donc sûr. En fait, tu... Oui, mais ça devient un jeu à somme nulle. Tu vois, c'est pas... donc c'est, alors, je trouve ça merveilleux. Parce que c'est juste ébouriffant. Et c'est son côté... ce que j'aime chez Sam Altman, c'est son côté très, comment dire, pragmatique, tu vois. Un problème, une solution. mais... Et puis l'ambition du projet, c'est tout fou. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut qu'on ait des alternatives à NVIDIA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voyais ça en regardant le cours de l'action Meta, par exemple. Le cours de l'action Meta est monté en flèche. Bon, d'abord parce qu'ils ont réussi à faire plus de 25% de revenus en licenciant 25% de leurs troupes, donc ils ont gagné très largement en efficacité, ok, super pour eux, on est contents. Mais aussi, pourquoi ? Parce qu'on a vu le volume de leurs précommandes chez NVIDIA. Et le volume de tes précommandes chez NVIDIA, en gros, c'est un prédicteur de ton innovation future aujourd'hui. Donc bon, clairement, on a besoin d'avoir d'autres choses, d'autres fournisseurs, et puis peut-être des choses plus spécialisées, parce qu'on oublie aussi que ce qu'on achète chez NVIDIA, c'est des cartes qui sont à la base faites pour faire plutôt du graphisme, mais qu'on utilise
pour faire... rigolo. Pardon.
Je t'en prie.
Je crois que tu avais fini, excuse-moi. C'est assez marrant qu'on se dise que finalement, là, OpenAI essaye de dédoubler la concurrence pour éviter les monopoles de NVIDIA, alors qu'en fait, OpenAI a juste envie d'être dans son monopole à lui et d'internaliser, de verticaliser la production de A à Z, pour le coup, avec Microsoft derrière, qui a aussi plein de milliards investis dans OpenAI depuis le début. Après, moi, je me posais plus aussi des questions sur qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui sur l'avancée des GPT-4 et de la techno telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si maintenant, Altman est en train de dire « En fait, on va être limité par le hardware », qu'est-ce que ça veut dire sur les possibilités de GPT ? Enfin, en gros, est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir du tout innover en termes de ce qu'on a déjà, je m'interroge parce que on voit quand même comme le GPT a évolué en quelques mois. Donc c'est vrai que je me demande ce qu'on veut atteindre de plus. Quelles sont les vraies limites aujourd'hui qui vont être décuplées, quoi.
Moi, je pense que Nvidia est déjà très efficace dans le domaine. Intel, AMD et peut-être d'autres vont maintenant, ça prend un moment pour se mettre en place, mais vont rejoindre Nvidia dans la course. Moi, j'ai l'impression surtout que Sam Altman a tellement le vent en poupe qu'il voit sur ce genre de projet, c'est un projet à 10 ans, hein, 10 ans, 15 ans, le fait de construire des usines de fonderie, ça prend rien que ça, c'est je ne sais pas, 5 ans minimum, minimum. Et du coup, je pense qu'il a le vent en poupe et il se dit « Bon, bah, l'IA va faire tourner le monde et dans 5-10 ans, je veux avoir construit quelque chose qui est au fondement de ce qui fait tourner tous ces systèmes. » Et donc, il profite de sa popularité pour se lancer là-dedans. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin de Sam Altman fonderie pour que les semi-conducteurs, l'industrie des semi-conducteurs réussisse à fournir le monde en puces capables de faire de l'IA. Mais par contre, le fait de se dire bah, « c'est mon domaine, je peux me lancer dans cette activité qui nécessite tellement d'argent que c'est inaccessible, même aux plus grandes sociétés, il y en a quoi c'est peut-être 5 qui pourraient se lancer là-dedans », et bah, il se dit bah, « je vais me lancer là-dedans, je peux lever tout ça, donc super, je vais prendre une place qui est difficile à prendre ». Pour donner un exemple, les dernières machines de ASML, vous savez, ASML, c'est la société hollandaise qui fabrique des machines pour faire de la lithographie. Les dernières machines sont en HNA EUV, voilà, je ne dis pas de bêtises, c'est High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet. Eh bien, une machine, ça fait la taille d'un bus à deux étages et ça coûte 350 millions de dollars. Ouais. Une machine, une. Ouais. Et il y a des lentilles et des miroirs tellement précis qu'ils doivent être sous vide. Enfin, c'est des trucs hallucinants. Une machine coûte 350 millions de dollars. C'est la prochaine étape et ça permettra de réduire encore d'un tiers, un truc genre la taille des transistors. Donc,
c'est inaccessible. Ce sont les machines les plus complexes produites au monde. Y a pas de voilà.
Bon, donc voilà pour Sam Altman. On verra hein, peut-être que dans 10 ans.
Alors juste un truc oui. Peut-être. Hein, c'est intéressant que ça arrive à ce moment précis parce qu'il est en train de se passer un truc un peu à bas bruit, j'ai l'impression, dans la manière dont fonctionne l'économie de l'innovation. On l'a vu et on en a parlé, le rachat de Adobe qui devait racheter, là j'en appelle à Marie, comment s'appelle ce site qui fait du graphisme
Figma.
Figma.
J'ai mon cœur qui s'est emballé, je me suis dit, attends, il faut que je réponde. Figma, très bien.
C'est après 2 ans de discussion et surtout de passage sous les fourches caudines des régulateurs, le rachat a été annulé. Pourquoi ? Entre autres parce qu'un régulateur anglais l'a interdit de son côté en disant non, mais ça pourrait poser des problèmes de concurrence. On pourrait débattre de ça, mais ce n'est pas forcément le débat. Alors Figma, ils vont très bien. Du coup, ils ont touché 1 milliard de dédommagement. La vie est belle. Mais ça pose une question. C'est celui de comment on fait pour financer les startups demain. J'explique. Une start-up, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec de l'investissement, avec soit des business angels, c'est-à-dire des petits investisseurs, petits entre guillemets, investisseurs privés, qui mettent des petits entre guillemets tickets de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros ou de dollars. Et puis après, avec des capitaux risqueurs, des fonds qui, eux, vont en mettre beaucoup plus. On a vu des levées de fonds absolument dingues ces derniers temps, à coût de centaines de millions, voire de milliards. OK, c'est très bien, mais ces investisseurs, ils ont un espoir de refaire leur investissement. À un horizon qui est assez défini dans le temps. D'ordinaire, on dit entre 3 et 6, 7 ans maximum. Comment fait-on pour sortir son investissement d'une start-up ? Il y a deux façons. Soit la start-up cartonne et s'introduit en bourse, et là, tout à coup, tes actions, bah, tu peux les revendre sur le marché ouvert. Soit ta start-up, elle est revendue à un plus gros qu'elle. Qui rachète des start-up aujourd'hui ? Bah, les plus gros, c'est-à-dire Google, Meta, Apple, Microsoft et Adobe, par exemple. Le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, ce rachat, c'est pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on a dit à Adobe, ah, vous n'êtes pas vraiment concurrent aujourd'hui, mais vous pourriez le devenir demain. Et du coup, ça réduirait la concurrence sur le marché. Ce qui est un argument difficile à suivre. Hein, c'est pas. Mais du coup, s'il n'y a plus personne pour acheter les startups,
c'est difficile à suivre. Mais ok, admettons.
Non, c'est le ouais, bon. Mais si on suit ce raisonnement, ça veut dire que ça va devenir très difficile pour des entreprises. Aujourd'hui, tu as le gendarme du commerce américain qui veut justement s'intéresser à l'investissement de Microsoft dans OpenAI, qui n'est pas un rachat, qui est un investissement minoritaire. Enfin, tu peux le qualifier de 1000 façons. Si on interdit ce genre de choses demain, il ne va plus rester beaucoup de géants pour investir dans des startups, vu que la voie de l'introduction en bourse est un truc dont on pourrait dire que ça a eu payé en ce moment. Ça va devenir compliqué. Du coup, je reboucle sur OpenAI et sur Sam Altman. Sam Altman est très intelligent, ça on le savait. Il arrive à un moment où justement tous ces gens qui ont de l'argent à installer, à investir, se posent la question de dans quoi je le mets. Il va falloir que je le mette dans quelque chose qui est une vraie nouvelle activité qui a des chances de porter ses fruits demain. Du coup, en fait, c'est pas si con que ça. Enfin, c'est pas si fou que ça de dire j'ai besoin de 7000 milliards de dollars.
C'est effectivement, ça pourrait être cohérent. Il se dit, personne n'a envie de mettre de l'argent là où il le mettait avant. Donnez-le-moi, j'en ferai quelque chose de bien, je vous promets. Bon, c'est effectivement l'un des trucs les plus ambitieux qu'on puisse imaginer. On pourrait en parler longuement, mais on va avancer pour parler un petit peu de plusieurs choses. Le Vision Pro, évidemment, mais avant ça, je veux faire un petit détour par Apple et les revenus dont on parlait la semaine dernière. On disait notamment que les revenus des services chez Apple représentaient, je ne sais plus combien, 20 milliards sur le troisième trimestre, un truc comme ça, 23,1 milliards sur le troisième trimestre. App Economy Insights, encore eux, relayé par Oli WW sur le Discord, merci à lui, nous montre que ces services-là, qui sont donc le deuxième plus gros poste de revenus d'Apple sur le trimestre, après l'iPhone évidemment, mais quand même bien loin derrière, ça représente à peine un tiers ou un quart des revenus des iPhones, eh ben c'est 23 milliards. C'est quand même plus que Netflix, Spotify, Peloton, Dropbox, Mastercard, Electronic Arts et le New York Times réunis ensemble. Donc, rien que sur les services, Apple fait plus que tous ces autres-là réunis. J'ai trouvé ça amusant. Comme toujours, les posts de App Economy Insight sont à dévorer.
La répartition à l'intérieur, justement ? Genre, est-ce que c'est Apple Music ? Parce que c'est clairement pas Apple TV Plus qui doit permettre...
C'est sans doute un petit peu de tout. Moi, j'imagine qu'il y a des abonnements Apple One qui incluent l'ensemble, parce qu'ils ont vraiment poussé les gens là-dessus. Il y a peut-être des gens qui sont abonnés uniquement à Fitness Plus, par exemple, aux États-Unis ou ce genre de choses. Mais non, Apple ne détaille pas l'intérieur de la catégorie. Mmh. Donc, non, malheureusement, c'est pas... ça serait super intéressant de savoir.
Ouais, surtout si on compare à Netflix et tout ça, enfin savoir ça, de quoi, parce que Apple Music, tout ça, ouais, d'où ça vient. Hein.
Est-ce que Apple Music fait plus que Spotify, par exemple ? Est-ce que Apple TV Plus fait plus que Netflix ?
Non.
on ne sait pas, parce que si c'est Apple One, pourquoi est-ce que les gens... Tu vois, les services, c'est évidemment iCloud, puis Apple News, mais bon, ça, c'est qu'aux États-Unis.
Et les commissions sur les apps.
Arcade, non, les services, c'est que les abonnements à Apple. Tu vois, Apple Arcade...
Mais c'est pas les commissions.
Ah, peut-être, oui, les services pour les trucs récurrents, c'est possible. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis peut-être les revenus de l'App Store, peut-être qu'ils sont inclus. Bon, enfin, en tout cas, ça fait beaucoup d'argent. D'autres résultats intéressants dans les résultats, Snap, qu'il y a quelques années, dans les colonnes de cette émission, disparage en français, dénigrais.
Je t'en moquais.
Voilà, gentiment. Oui. Enfin, je me disais, bon, bah, Snap, ça y est, ils se sont fait bouffer, c'est fini. Ils ont aujourd'hui, alors attendez, je retrouve le chiffre, 400 millions d'utilisateurs quotidiens. 400 millions! C'est énorme, énorme. Et ils ont des revenus en hausse, etc. Snap, vraiment, c'est l'un des plus gros. Personne n'en parle. Mais c'est l'un des plus gros comebacks de l'histoire de la tech, quoi. Il y a 3 ans ou 4 ans, ou peut-être plus longtemps, je ne m'en souviens plus, on les donnait comme morts, quoi.
Pas tant que ça, il y a même 2 ans, on disait, bon, ça y est, il manque que le dernier clou dans le cercueil, quoi, c'est un peu fini. Mais il reste quand même une population, sauvagement accrochée à Snap. Et puis, c'est générationnel, c'est pour ça que toi et moi, on ne peut pas comprendre.
qu'on a besoin de Marie pour nous expliquer.
Nous, on se parle sur des trucs de vieux, quoi.
Ben ouais, justement, en fait, en France, c'est une des applications les plus utilisées chez les jeunes. C'est même la première application de messagerie. Et c'est un écosystème un peu fermé, notamment dans les médias. Enfin, vous savez, quand on est en média, on essaye de se lancer sur plein de plateformes. Donc, on va faire des vidéos sur TikTok, sur Twitter, sur machin. Et puis, sur Snapchat, on ne peut pas, en tant que média, faire des vidéos sur Snapchat. Il faut avoir un partenariat, nouer des relations avec Snapchat qui vont ensuite vous accepter en tant que contributeur média et proposer des séries spécifiques. Et une fois qu'on est dans le rouage, ça peut rapporter de l'argent et ça peut être mis en avant, mais il faut réussir à passer ce cap. Et en fait, c'est tout un business model qui est extrêmement différent des autres plateformes et ça le rend vachement intéressant. Et c'est vrai que clairement, c'est le réseau social le moins couvert de la tech parce que c'est principalement un outil de messagerie one-on-one. Si on n'a pas envie de parler si on ne parle pas à des gens de moins de 20 ans sur Snapchat, on n'utilise pas Snapchat et du coup, on ne voit pas les... Mais pour l'anecdote, il y a 6 mois, Snapchat a lancé MyAI, un compagnon avec qui on pouvait discuter. Et sur Numérama, on a fait un petit article, vraiment un truc... comment utiliser, c'était ou comment s'en débarrasser, un truc comme ça. Je crois que c'est un top 10 de nos audiences tech sur l'année 2023. En fait, il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs de Snapchat, mais on les voit pas et surtout on leur parle pas. Et à mon avis, on leur parle pas assez parce que quand on voit l'audience que ça peut faire, c'est assez farfelu.
Mais il faut faire plus d'articles sur Snapchat, trouver des trucs à. Oui. ARM a rentré 824 millions sur le troisième trimestre, leur troisième trimestre fiscal. Je trouve ce chiffre tellement ridicule par rapport aux chiffres des GAFAM. Bon, c'est beaucoup, hein, c'est presque 1 milliard sur un trimestre, donc ça va. Mais étant donné qu'ils sont quand même la fondation de tout l'écosystème mobile du monde, et plus même que juste mobile, je trouve qu'1 milliard, ça me surprend que ça soit si bas. Mais bon, bref. Spotify a également eu des résultats en hausse et ils ont atteint les 600 millions d'utilisateurs mensuels actifs. 600 millions, là aussi, c'est beaucoup.
C'est énorme.
Et c'est d'autant plus, du coup, alors peut-être pas surprenant, mais c'est d'autant plus, je ne sais pas, déprimant pour eux qu'ils ne fassent pas d'argent. Spotify n'a encore, ils ont eu, je crois, un trimestre dans le rouge, dans le noir, en positif, et sinon, ils ne font pas d'argent. Donc, c'est vraiment une société qui est dans une situation particulière. Ils ont une popularité qui est indéniable, mais ils versent tellement d'argent aux ayants droit que eux ne réussissent pas à être bénéficiaires.
Ça n'aurait pas fonctionné sinon. C'est-à-dire, ils n'auraient jamais eu les droits. Ils ont lâché énormément de choses au début en termes de capital, en termes de deal. Et donc, évidemment, ils sont le remplaçant du CD quand même. Hein. C'est, voilà.
Mais c'est dingue que le remplaçant du CD ne réussisse pas à être bénéficiaire, tu vois.
Mais il n'est pas bénéficiaire, mais il est contributeur, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il quand même contribue à l'économie de son écosystème.
Et oui, mais que le fait que la boîte ne fasse pas d'argent. Évidemment, c'est
alors, ils investissent beaucoup, ils ont essayé beaucoup. On a vu toutes les choses qu'ils ont fait sur le podcast, quoi. Avec des investissements parfois un peu enthousiastes, on va dire. Mais qu'on ne peut qu'encourager. Hein. Je veux dire, ça a fait plaisir à tout le monde quand ils ont dit « Tiens, on va racheter une boîte de podcast pour 280 millions. » Oui, bah, ça me paraît une bonne idée. Tout le secteur a dit « Oui, c'est une super idée. Oui, d'ailleurs, c'est ça le prix maintenant. » Voilà. Bon, ça n'a pas payé comme ça aurait pu payer, mais il faut
reconnaître... Je ne vous raconte même pas les sommes que je refuse quand on me demande de racheter le rendez-vous tech. Hein. Je dis non à des sommes mirobolantes.
Tu vas te retrouver un jour comme le premier patron, c'était Deezer ou Dailymotion ? Je crois que c'est Daily. Non, c'est Deezer, je ne sais plus. Qui a refusé 100 ou 120 millions. Enfin, c'est le dernier truc à faire quand tu as 24 ans, malheureusement.
Mais non, j'ai bloqué le numéro de Sam Altman. J'en ai marre qu'il m'appelle. Tu vois,
c'est vrai. Mais surtout avec le décalage, c'est chiant. C'est la nuit.
Au milieu de la nuit.
Sam, s'il te plaît, voilà, envoie-moi un WhatsApp.
Mais le sujet le plus important là-dedans, j'ai commencé sur Apple et les résultats, et du coup j'ai parlé d'autres résultats, mais je voulais parler un petit peu du Vision Pro encore, notamment parce qu'il y a un article hyper intéressant de Mark Gurman chez Bloomberg, hein, Mark Gurman qui est leur spécialiste Apple, qui connaît très bien le sujet, qui fait une réflexion intéressante, et alimentée par son expérience du produit et ses contacts chez Apple. Il dit... En fait, le Vision Pro, ce n'est pas un remplacement d'ordinateur, c'est plutôt dans l'ambition d'usage et le type, le temps d'usage et le type d'usage, c'est plutôt un appareil qui est voué, dans un premier temps en tout cas, à remplacer l'iPad. Et accessoirement, il dit que les ingénieurs d'Apple estiment qu'il faudra environ 4 générations pour que l'appareil soit véritablement fonctionnel et atteigne son potentiel. Bon, quand on voit les autres produits comme l'iPad, justement, l'iPhone même ou l'Apple Watch, 3-4 générations, ce n'est pas si surprenant. On n'est pas si loin derrière avec l'Apple Vision Pro, mais l'idée que ce soit effectivement dans l'ambition du produit, non pas un truc qu'on va utiliser tous les jours pour tout faire, mais un petit peu comme l'iPad qu'on sort de temps en temps pour des usages spécifiques, tout à coup, ça me parle beaucoup plus. Il y a des usages qui font sens avec le Vision Pro, même aujourd'hui, et encore plus quand il aura une maturité un petit peu plus grande. Mais du coup, Marie, toi qui l'as eu sur les yeux, pour de vrai, et sur la tête, est-ce que cette manière d'envisager les cas d'usage du Vision Pro te paraît cohérente ? Et puis, plus largement, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'appareil ?
Oui, en fait, ça a vachement de sens. Et moi, je l'ai compris aussi quand je l'ai essayé il y a quelques jours. Je vous avoue que moi, je ne partage pas l'engouement de base pour les casques et pour la réalité virtuelle et la réalité mixte, tout simplement parce que je pense qu'on manque encore un petit peu de projet de société derrière ce genre d'innovation très coûteuse. Et c'est un peu ce qu'on a reproché à Mark Zuckerberg quand il a voulu lancer son métavers et qu'en fait, au bout de 2 ans, on s'est dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu investis ces milliards là-dedans? Et à l'heure actuelle où quand même on essaye de s'inquiéter un petit peu de la planète et de là où on va et pourquoi on fait les choses, Ça pose des questions. Maintenant, et aussi, je remarque quelque chose que je voulais vous faire part, de toute façon, on l'a tous remarqué à la rédaction de Numérama, c'est qu'il y a une vraie segmentation aujourd'hui pour l'intérêt de ce produit entre les hommes et les femmes. Je crois que c'est la première fois que je vois une segmentation si frappante. Tous les hommes du groupe média Numérama, Humanoïde, qui saute sur Nicolas vraiment, enfin tout le monde veut l'essayer. Chez les meufs, on a quand même vraiment un désintérêt ou un manque d'intérêt ou en tout cas vraiment. Mais je pense que c'est pas du dédain ou c'est pas une incompréhension de ce que c'est. C'est vraiment on comprend ce que c'est et on s'en fiche. Et je trouve que c'est, je le dis pas du tout de manière vindicative, hein, je suis assez surprise et ça m'interroge vraiment beaucoup sur j'essaie de comprendre à quel point on a cette segmentation-là. Donc ensuite,
il y a des pistes peut-être dans la newsletter de Lucie.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Ouais. Oui, d'accord.
C'est ça, c'est dans Règle 30, la newsletter de Lucie qu'on édite sur Numérama, où elle parle notamment de ce côté regarder, être regardé, qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes de mettre un casque et de s'enfermer dans un monde et de ne pas pouvoir contrôler ses environs, dans un monde où nous, on a plus été éduqués à prêter attention à l'extérieur et au fait d'être regardé par le regard masculin. Bon, ça, évidemment, c'est que des pistes et pour l'instant, je vous recommande la newsletter, on l'a mise en ligne sur Numérama ce week-end qui s'appelle l'Apple Vision Pro est une vision d'homme. Et en plus, c'est intéressant parce que cet article-là, il vient compléter une couverture qui est extrêmement exhaustive sur Numérama, notamment.
Oui, c'est pas que vous n'en avez pas parlé ou que c'est un regard en plus.
Ouais, c'est ça. Pardon. Au contraire, c'est que du coup, on peut se permettre de créer ce genre d'article aussi parce que on a le produit et puis de l'autre côté, on le teste d'un point de vue technique. Et du coup, j'en viens au truc technique. Donc moi, je l'ai testé. J'ai aussi été bluffée. Clairement, il y a quelque chose. Enfin, j'ai testé plein de casques de réalité virtuelle. Ça n'a rien à voir dans la fluidité, dans le eye tracking m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire, si j'affiche le site numérama.com et que je veux cliquer sur un article, j'ai vraiment juste à le regarder. C'est d'une précision impressionnante. Alors, en plus, il y a ce côté un peu science-fiction. Hein, on se projette dans Minority Report, on se projette dans tous ces trucs, dans Ready Player One où on contrôle juste avec le doigt. L'interface et puis surtout pour moi le nerf de la guerre là aujourd'hui c'est le divertissement. Apple a fait des contenus très spécifiques notamment en 3D pour découvrir des dinosaures. Tu peux aussi aller voir Alicia Keys dans son studio d'enregistrement filmé en immersion totale où tu peux vraiment t'as vraiment l'impression d'y être quoi. Et je trouve que là niveau qualité de l'image de l'immersion il y a un step qui a été franchi, c'est une évidence. C'est un truc que je pourrais mettre dans mon canapé quand je suis seule chez moi pour regarder un film, pour me faire une immersion totale, pour franchement, je pourrais le faire.
Donc toi, ce que tu dis, c'est que t'as pas été convaincu par les casques de réalité virtuelle jusque là, et ici, alors peut-être pas que tu n'iras peut-être pas jusqu'à l'acheter ou je sais pas quoi, mais tu vois le cas d'usage qui pourrait fonctionner là vraiment.
Voilà, je vois le cas d'usage. Ensuite, il y a toute une question autour de est-ce que c'est le futur de l'ordinateur ? Parce que c'est autre chose et c'est comme ça que Apple le market quand même. Et c'est une vraie question. C'est la question aussi qui nous concerne le plus en tant que spécialiste de la tech. Et aussi parce que c'est le discours d'Apple en fait qui peut pas vendre un casque aujourd'hui 4 000 $ et dire c'est pour se faire un ciné.
Il y a un décalage.
C'est pas possible, voilà. Alors, ils disent que c'est le futur de l'ordinateur. Pour le coup, moi, là, j'ai Nicolas à 2-3 mètres de moi et il travaille tous les jours dessus, pour pouvoir justement faire son test écrit qui sortira vendredi, pour montrer, pour dire est-ce que c'est vraiment le futur de l'ordinateur. Lui, il y a des avantages, c'est-à-dire ce côté un peu vraiment, t'as l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace, tu peux travailler avec plusieurs fenêtres devant les yeux et tout ça. Moi, je trouve que ça reste un peu un gimmick. Néanmoins, pour vous décrire d'où je parle, je trouve aussi que l'iPad est un gimmick.
Ça se rejoint. Hein, tu vois, Gurman a peut-être vu un truc.
C'est ça. Ouais. C'est que c'est assez parlant parce que moi, j'aime bien travailler sur un ordinateur. J'ai mon petit MacBook, j'ai mon clavier, j'ai mon écran. Je ferme l'écran quand c'est fini et puis et je passe à autre chose. Le côté, moi, ça me fait pas envie d'aller écrire un article avec un casque sur la tête. Je vois pas l'intérêt.
Personne, enfin, je sais. Alors, peut-être qu'une fois que tu l'as sur la tête, tu comprends, mais.
C'est plaisant. Je pense que c'est plaisant, mais je pense que, d'accord. En effet, avec toutes les contraintes que ça apporte derrière, c'est compliqué. Et après, bah, comme dit, je trouve que ça reste compliqué à comprendre en termes de projet de société, en termes de projet d'investissement même. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même, enfin, ça fait quand même des décennies que la tech et les GAFA se substituent aux États pour certaines choses, qu'on a du mal justement à les réguler, qu'on a du mal à collaborer entre États et entreprises privées. Et là, du coup, on a une entreprise privée, bah, la plus suivie au monde, hein, clairement, que ce soit en termes d'innovation, c'est quand même qui décide de, pour une des premières fois, suivre un peu le mouvement, de se dire bon ben allez on y va, peut-être que la réalité virtuelle c'est le futur. Et je me pose je me demande qu'est-ce qu'on a envie de révolutionner là-dedans, un peu comme quand l'Apple Watch était sorti. Moi pour le coup, pour l'instant avec Nico, on parle souvent de l'Apple Watch plutôt que le casque, que l'iPad en comparaison. Parce que l'Apple Watch, bon, ça reste un produit qui a jamais vraiment trouvé son utilité profonde. Ces derniers temps, ok, on peut trouver si on a le Covid ou pas, parce que la température de son corps augmente, mais globalement, ça reste un outil assez cher.
Ouais, c'est un moniteur et également de santé et de fitness, bon, qui est pas indispensable.
Et aussi un outil, pas indispensable, c'est sympa, c'est un gimmick, ça coûte un peu cher, mais c'est pas. Peut-être que quand la Vision Pro coûtera 400€, il trouvera à peu près le même public. Faudra voir. Mais, et puis, ouais. Pour finir, le truc, la comparaison avec l'Apple Watch, on a aussi ce truc de segmentation de genre. Moi, je connais des femmes qui ont des Apple Watch. Principalement, c'est aussi des hommes qui leur ont fait le cadeau à la base. Je ne sais pas si c'est un peu pareil dans votre entourage. Oui, elles le portent. Ça reste quelque chose qui est pareil, assez segmentant. Ce n'est pas du tout comme le téléphone, le smartphone ou les casques AirPods Max qui sont beaucoup moins genrés. Donc,
L'impression aussi pour la Watch. J'ai l'impression que c'est surtout des mecs... Mais bon, l'Apple Watch, moi je porte la mienne tous les jours et je suis le premier à vous dire que ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça me fait lampe torche, comme les gens le savent ici, quand il fait noir, c'est pratique d'avoir une lampe torche. Mais sur le Vision Pro, tu évoquais tout à l'heure déjà l'idée que est-ce qu'il faut move fast and break things ou y réfléchir avant. Moi, je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas réfléchir à un truc qui n'a pas encore été inventé. Enfin, si, on peut, mais je veux dire, à un moment, il faut... créer le truc pour savoir ce que ça fait, les effets que ça va avoir, avant de se dire on pourrait le faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça, avec bien sûr de la mesure. On peut évidemment réfléchir aux effets qu'un truc peut avoir et puis essayer d'anticiper, mais il y a quand même des choses qui sont difficiles à anticiper quand on ne les a pas vues en application, parce qu'on ne sait pas ce que ça va se donner. Mais bon,
c'est le propre de l'innovation. Hein. C'est vraiment. Et puis, c'est comme ça que notre monde s'est construit dans la tech. On a lancé des produits et puis il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais la manière dont on a innové ces deux dernières décennies, elle cause aussi des. Il y a aussi des conséquences qui sont plus larges que le monde de la tech. Il y a des conséquences sur l'écosystème, sur l'écologie, sur d'autres choses qu'on commence, pour le coup, à prendre en compte et qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est des paramètres qui sont intéressants.
Sur la question de l'IA, par exemple, je ne veux pas revenir, on est en train de parler du Vision Pro, mais sur la question de l'IA, les risques qu'on constate aujourd'hui, qui sont ceux des deepfakes, de la manipulation, de la désinformation, c'est des risques qu'on avait déjà prévus, par exemple. Et jusqu'à ce que l'IA soit effectivement là, je veux dire, il y a 1000 choses qui peuvent causer des risques, qui peuvent causer des problèmes. On ne peut pas se lancer et appliquer, je ne sais pas, des lois, des décisions sur des trucs qui n'existent pas encore, parce que c'est potentiellement risqué. Sinon, on se met à réguler 1000 choses qui n'ont pas encore été créées. Enfin, moi, je trouve ça pas raisonnable, quoi. Et donc, dans le cas de l'IA, il y a plein de choses dont les risques étaient déjà établis, qu'on avait documentés, et auxquelles on commence à s'attaquer maintenant, parce que ça arrive dans la société. Et c'est, comment dire, messy, c'est sûr, mais je suis pas certain non plus que l'idée de se dire on fait plus rien avant d'avoir complètement régulé tout le truc soit la bonne voie non plus, quoi. Mais
d'autant qu'en fait, et c'est pour ça que l'Apple Watch est un bon analogue, Apple a lancé l'Apple Watch sans être absolument certain des usages qui allaient en découler. Moi, je me souviens, j'étais au lancement. Au début, on te le présentait comme le truc à tout faire, si tu veux, qu'elle allait, pour l'essentiel, te permettre de laisser ton smartphone dans la poche tout le temps. On s'est aperçu qu'en fait, oui, mais non. Enfin, c'est-à-dire que c'est des trucs qui sont un peu affinés avec le temps, à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de ce que les gens en ont fait. Et là, ça va être un peu la même chose. Quand Apple te dit c'est le futur, it's the future of computing, ce qu'ils te disent en creux, c'est OK, c'est la V1. Vous affolez pas trop sur le prix, sur tout ça. Enfin, voilà, tout ça va. Il y a des choses qui vont se simplifier. Je pense qu'il y a aussi un gros travail. Ils en ont fait beaucoup, hein, mais un gros travail sur l'ergonomie. Parce que le problème de ça, c'est que quand on dit que c'est le futur de l'ordinateur, est-ce que tu peux le porter sur la tête et sur les yeux pendant 8 heures par jour?
C'est, c'est ça justement c'est qu'on est en train de voir avec Nico. Là, je sais que. Il le met tout le temps.
Ah, le pauvre.
Il y a justement... Non, mais c'est... Bon, il kiffe, hein.
Ouais, d'accord. Et puis, le pauvre, on ne va pas trop le plaindre non plus, d'accord.
Ça a été bien pensé en termes de poids. Après, ouais, j'avoue, moi, je l'ai mis sur ma tête 15-20 minutes. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Mais je trouve pas ça agréable, en fait, d'avoir un truc de... C'est 800 grammes à peu près sur le visage. Donc, ça reste... Ça reste un petit poids, et puis quand on l'enlève, c'est ce que d'ailleurs c'est un article que Nico va écrire bientôt. C'est ok, c'est vraiment super, mais la vraie vie c'est sympa aussi. Et j'étais content, enfin en gros, en mode j'étais quand même soulagée d'enlever mon casque après une grosse session, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à rappeler.
Ça rejoint l'iPad finalement. Il y a des gens qui vont dire « Moi, je fais tout sur mon iPad, je l'adore, j'ai un clavier, un stylet, machin, je fais tout. » Ok, peut-être certains, mais d'une manière générale, l'iPad, c'est un truc que tu prends quand tu as un truc spécifique à faire sur l'iPad, puis tu le reposes. Tu peux le faire une heure, deux heures, ce que c'est, mais tu es plutôt sur ton ordinateur quand tu bosses pour de vrai. Et un truc que je constate, que j'ai entendu de plusieurs personnes, non, c'est pas vrai, d'une personne, mais ça rejoint un truc que j'ai dit, donc je trouve ça particulièrement judicieux, elle est très représentative, c'est qu'elle reparle d'un truc dont je parlais depuis des années quand on parle de réalité virtuelle, qui est le fait que les smartphones, ce qu'ils ont véritablement amené, les smartphones, ils ont amené le fait d'avoir accès à la connaissance, à toute la connaissance de partout. C'est une sorte d'omniscience, en fait. Et les gens qui sont suffisamment âgés pour se souvenir de ce qu'était la vie avant les smartphones, avant Internet finalement, mais en particulier avant Internet accessible dans la poche, c'est que quand tu ne savais pas un truc, si tu n'avais pas l'encyclopédie chez toi, bah, tu ne le savais pas. Et c'était terminé. Et quelqu'un essayait de deviner, tu demandais à l'oncle et au grand-père, et s'ils ne savaient pas, depuis qu'on a Internet et les smartphones en particulier, tu es omniscient. Tu peux avoir accès à toute la connaissance humaine de n'importe où. Ce que fait véritablement, pour moi, le véritable fantasme de la réalité, la réalité virtuelle, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire que si on a des avatars suffisamment réalistes, on n'y est pas encore, mais Meta y travaille et on pourra y arriver, et qu'on peut se réunir dans des endroits et aller dans des endroits en virtuel, si c'est suffisamment réaliste, on est un petit peu, de la même manière qu'on est omniscient avec le téléphone et Internet, on est un petit peu omniprésent, donc on peut se téléporter. Et ce potentiel de la téléportation, si ça se manifeste vraiment, encore une fois, il faudra quelques générations, il est, à mon sens, important. Si on réussit à avoir l'impression d'être dans un endroit dans lequel on n'est pas, avec des gens avec lesquels on n'est pas, là, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est très loin de l'informatique spatiale et du fait de taper sur un clavier. Mais une personne l'a évoqué, donc je pensais que je le remettrais sur le tapis encore une fois en disant « Mais je vous le dis depuis 3 ans. »
Après, il y a une vraie question du monde qu'on a envie d'avoir, quoi.
Mais on n'a pas besoin du monde si on a tout dans l'Apple Vision Pro.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux solutions, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est que ça reste un produit de niche qui coûte cher, et du coup, ce sera un produit de divertissement pour une certaine catégorie de la population, et du coup, creuser les inégalités. Soit on va dans un monde où ce serait un produit accessible à tous, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de construire? Quel est le but derrière? C'est un peu ça c'est peut-être plus générationnel pour moi et les gens qui m'entourent, mais c'est vrai que quand on dit ce sera dans plusieurs générations que ce produit arrivera à maturité, moi je me dis j'ai pas le time, en fait. D'un point de vue vraiment à la fois humain et même en termes d'innovation, j'ai l'impression qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup d'autres choses et que parfois notre imaginaire qui est stimulé par la science-fiction et moi vraiment, c'était vraiment un énorme kiff de pouvoir me croire Tom Cruise dans Minority Report et de faire tic-tic avec mon petit doigt. J'étais ravie. J'étais vraiment ravie, mais j'en suis ressortie en me disant bon, et maintenant
mais
on
oui,
fait
mais
quoi
tu peux enfin, pas, voilà, tu peux, la tech est un domaine d'innovation vraiment intéressant parce que tu es à mi-chemin entre la conception de produits de consommation qui doit vraiment avoir une utilité là au moment T. Et la recherche fondamentale où tu essayes des trucs juste parce que tu essayes et juste parce que tu as envie d'essayer et puis tu vois ce que ça donne. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui sont intéressants, des trucs qui servent jamais à rien et des trucs qui changent ouais. le monde. Et dans la tech, tu peux pas dire bah, on va faire que des trucs qui vont marcher parce que si tu sais que ça va marcher, a priori ça a déjà été fait. Ou... Donc tu es obligé de tenter des trucs pour lesquels tu sais pas trop à quoi ça va servir, peut-être que ça va être bien, peut-être pas. Et c'est comme ça que sont nées les innovations. Et c'est pas juste. J'ai l'impression qu'on a souvent une vision de la tech aujourd'hui, c'est genre, ah ben on fait des trucs qui ont des effets dévastateurs sur la société ou sur machin. C'est pas vrai. On a tendance à beaucoup oublier les effets positifs qu'ont eu la tech, que je vais pas me remettre à lister, mais enfin, le monde a été transformé à des dizaines de reprises dans le bon sens par les innovations technologiques. Enfin, l'innovation technologique est ce que. Bon, bref, on va pas faire de. De repartir.
Tu veux nous sortir le, tu veux nous, non, nous non, refaire le coup du bilan globalement positif, c'est ça ?
Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est marrant parce que non, je vais pas repartir sur ces questions-là. Mais juste pour par rapport à ce que tu disais, Marie, je comprends l'idée que oui, mais à quoi ça sert ? Mais le problème, c'est que si on fait pas les trucs parce qu'on se dit ouais, mais pff, a priori ça sert à rien, mais du coup tu fais plus rien. Et tu fais pas plus rien, c'est que tu t'assois sur tes mains et que tu pleures. Mais t'as plus d'innovation. Et on peut se dire bah peut-être que on est content. On a toutes les innovations techniques dont on a besoin, on a Internet, on a machin, et maintenant arrêtons-nous et essayons de nous concentrer sur d'autres choses. Je comprends
non, je pense
l'idée,
que,
tu vois.
Pense
non,
que c'est
pas ce que tu.
Ouais. Non. Après, c'est bien de le pousser à l'extrême aussi pour montrer la limite de mon raisonnement. Je pense que c'est bien
disais.
Aussi d'avoir. Mais c'est bien aussi d'avoir cette nuance-là. Je suis assez d'accord qu'il faut des gens pour prendre des risques et il faut des gens pour innover, comme il faut aussi des gens calmes derrière pour tout organiser et passer derrière et essayer de calmer le jeu. C'est juste que je vois quand même la manière dont on est en train d'innover, que ce soit dans l'IA ou dans les casques là, de hardware. Et encore, je ne comparerai vraiment pas les deux, parce que je pense que l'IA a vraiment un potentiel de changement de société qui n'est pas le même que le hardware de Apple.
Ouais.
Ça reste... En fait, on est en train d'innover de la même manière tout le temps. Comme tu dis, c'est comme ça qu'on a déjà fait, ça a marché, donc on continue. Mais moi, ce que je dis, c'est que, en fait, il y a aussi eu un pendant négatif à cette manière d'innover. Il y a énormément de choses qui ont été lancées, qui ont été abandonnées. C'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de reproduire en permanence. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas forcément inévitable de reproduire exactement la même manière de créer et que ce serait pas incohérent d'essayer de déconstruire complètement le modèle en se disant peut-être qu'on peut essayer d'innover différemment, soit plus calmement, soit pour le coup en ayant des objectifs en tête, au lieu de se dire on lance un truc et on va voir si ça prend. Parce que finalement, quand on regarde l'iPad et l'Apple Watch, c'est un peu ce qui a été fait ces dernières années par Apple. Moi, je pense que le monde pourrait vivre sans. Après, on va me dire...
Ça, il n'y a pas de
évidemment,
doute,
là,
je suis d'accord.
Après, moi, non, je suis très pour les trucs qui ne servent à rien. Enfin, on a aussi le droit de se divertir, on a aussi le droit d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Ce n'est pas du tout une critique du consumérisme en général, mais c'est quand même une vraie question de modèles de manière d'innover et puis de qui est-ce qu'on veut inclure là-dedans. On est vraiment en train de reproduire exactement les mêmes choses qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand on a créé les débuts du web et des produits qui sont faits pour les hommes par les hommes. On a beaucoup, beaucoup de mal, et vous le savez aussi, parce qu'il y a plein d'articles sur le sujet, à inclure les femmes à la fois dans l'IA et à la fois là dans la réalité mixte, mais c'est encore 10 fois plus flagrant. Et ça me pose question. Ça me pose question de me dire, en fait, on avance sur les sujets de société, sur plein de sujets. Les femmes sont beaucoup plus impliquées dans plein de thématiques. Et puis là, dans le monde de la tech, dans le monde du numérique, est quand même le sujet. Enfin, c'est quand même notre monde est numérique aujourd'hui. Eh ben, on arrive à avoir encore cette segmentation. Et enfin, ça reste 50% de la population, quoi, qui est quasiment exclue de ces sujets-là. Et j'ai du mal à me dire. Que avoir d'un point de vue positif le fait qu'on reproduise ces schémas-là, tu vois. J'aimerais bien qu'on trouve d'autres solutions.
Mais comme quoi ?
Qu'on trouve d'autres solutions
pour...
Ah, c'est ça la question. Parce que... En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt à déconstruire certaines choses, notamment le mythe de l'entrepreneur. D'ailleurs, on en avait parlé dans France Culture, une émission chouette sur le meilleur des mondes, sur le mythe de l'entrepreneur, cette espèce de mythe de, est-ce que je disais en introduction, d'aller vite et casser des choses. On glorifie une certaine des qualités qu'on attribue, enfin qui sont généralement le plus souvent chez des hommes, de justement d'être innovant, d'être créatif, d'être un peu bordélique, de tester des choses, d'oser faire des choses et tout ça. Et puis derrière, il y a les femmes qui s'inquiètent ou alors elles s'en foutent. Alors je caricature évidemment.
Oui, c'est une image un peu qui est réelle, mais qui est caricaturale, je pense.
Qui est hyper caricatural, et en même temps, c'est ce qu'on constate là aujourd'hui, avec les, comme je te dis, avec l'IA et avec le Vision Pro, c'est en fait, elles sont où les meufs, enfin, et de quoi, à quoi elles pensent. Et c'est ça aussi. Enfin, en fait, est-ce qu'on est vraiment tellement déconnecté qu'on ne pense pas du tout aux mêmes choses, on ne s'inquiète pas du tout aux mêmes choses, on n'a pas les mêmes problèmes, enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce serait chouette d'arriver à avoir un pan différent de l'innovation, et tu dis quelles sont les solutions. En fait, je pense qu'il ne peut pas y avoir de solution si on reproduit les mêmes mécanismes de création. Aujourd'hui, on a quand même les Sam Altman et tous les boys de 30 ans qui se ressemblent. C'est toujours les mêmes, en fait. C'est Mark Zuckerberg 10 ans plus tard. C'est les mêmes trucs. Donc, on ne peut pas s'étonner d'avoir des résultats similaires si on ne change rien dès le départ dans le processus de création, et qu'on continue à valoriser les mêmes qualités, qui sont des qualités, hein, bien sûr, d'innovation et de tests. Moi, j'ai un peu peur que parfois on cherche à innover pour innover, et que du coup, les casques en général et la réalité virtuelle, ce soit ça. Ceci étant dit, c'est une très belle prouesse technologique, et je pense que tous ceux qui sont sensibles à la technologie et à la qualité de l'innovation, enfin, seront fous du Vision Pro. Ça j'en suis sûr. J'ai fait un peu un monologue.
Mais c'est bien.
Non, tout va bien. Écoute,
c'est pour ça que je suis content de te recevoir aussi. Mais sur la question spécifique, moi, je ne vais pas forcément parler de la question de la segmentation, dont je suis complètement conscient et je suis d'accord que c'est un problème, la segmentation et l'aspect genré de l'innovation. Mais sur la question de la méthode de l'innovation, peut-être que je me répète un petit peu, mais on ne peut pas savoir a priori quels trucs vont fonctionner ou pas. Et oui, il se trouve que l'Apple Watch et le Vision Pro, les nanas s'en foutent, donc c'est un constat, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on semble constater aujourd'hui, mais tu ne peux pas savoir a priori lequel va aller dans quelle catégorie. Et l'iPhone, par exemple, qui, au-delà de la question du genre, a eu un impact important et je pense positif sur le monde, l'iPhone et les smartphones en général, hein, de la génération de l'iPhone. Et ça, tu ne pouvais pas savoir avant. Je veux dire, Apple, avant de se lancer à corps perdu, effectivement, dans une course ridicule avec le messie visionnaire qui va dire « Non, on va faire comme ça, on va faire encore plus petit, je décide qu'on va... » C'est complètement dans le schéma que tu décris et dans la caricature de l'innovateur et de machin. Ça donne aussi, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que ça donne aussi des résultats comme l'iPhone, ça donne aussi des résultats comme le web, comme Internet, comme... C'est... La base de l'innovation, c'est que tu essayes des trucs et que tu ne sais pas ce que ça va donner et que c'est messy, quoi. Donc, mais peut-être, ouais, peut-être qu'il y a un autre moyen de faire les choses et d'être plus, de considérer plus des aspects importants, mais je ne sais pas. Je tourne un petit peu en rond.
Non, mais c'est hyper intéressant.
Peut-être
du tout. Donc, on a posé... Mots. Pas du tout. On a posé les bonnes bases, je pense. Puis c'est pas quelque chose où on a des solutions toutes faites. Hein. Si on en avait, on aurait une parité exemplaire partout et ce serait facile. Ouais. Après, ça reste. Je trouve que ça reste intéressant à débattre.
Je suis d'accord. Cédric, je sens que tu brûles d'ajouter quelque chose, mais je pense qu'il faut qu'on avance un petit peu.
Non. Avance.
Ok, d'accord.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour parler d'un sujet qui va encore vous intéresser tous les deux, qui est ce fameux débat sur la publicité et le financement des contenus sur Internet, parce qu'il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a une société qui évolue en sous-marin depuis un certain temps, qui s'appelle The Browser Company, qui développe le navigateur Arc. Tu parlais de repenser les choses, de les revoir fondamentalement. Ben, eux, ils repensent le navigateur, et leur navigateur Arc est une vision différente de ce que peut être un navigateur et de la manière dont on peut gérer le système d'exploitation du web. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Arc est encore en bêta privée, mais ils ont lancé une application qui s'appelle Arc Browser Search, qui lit les résultats d'une recherche, va aller investiguer, décrypter les pages des résultats, donc les liens sous les résultats, donc lire les pages web des résultats, et construire une page web résultante qui va répondre à votre requête dans le moteur de recherche avec juste une page web bien organisée sans que vous n'ayez besoin d'aller regarder dans les résultats, les pages des résultats pour obtenir vos réponses. Donc, il vous extrait les informations, les met en forme et vous les présente dans une page web préconstruite qui n'a plus rien, n'apporte plus rien en fait en visite au site dont l'information est tirée. Bien sûr, les sites en question, qui sont du coup plus rémunérés, ils ne sont pas hyper contents. Il y a un autre événement qui a eu lieu la semaine dernière, qui est un petit peu lié, qui est, vous connaissez peut-être le YouTuber Julien Chiez, qui est...
évidemment.
Qui fait des reviews, qui parle de jeux vidéo, d'actualité et de jeux, qui est un petit peu controversé par certains aspects, mais qui est très, très, très populaire, qui est un ancien journaliste, qui travaille très dur, et qui a, lors d'un de ses lives, bloqué une personne qui utilisait Adblock. Il était en train d'expliquer YouTube Premium, et il était sur YouTube, hein, ou Twitch. Il expliquait YouTube Premium et comment ça marche, et la pub, etc. Et il y a une personne qui vient dans son chat et qui lui dit « Écoute, moi, j'utilise Adblock. Du coup, je ne vois pas les pubs sur YouTube. » Et dans un coup de sang, il a dit « Ah bah, tu utilises Adblock. Ok, moi, je te bloque. » Et il a bloqué la personne. Entre parenthèses, il l'a bloquée, ça veut dire qu'elle est bloquée, elle ne peut plus participer au chat. Elle peut quand même regarder la vidéo, donc c'est pas non plus qu'elle a plus accès à ses vidéos. Hein. Mais un clip a été extrait de cette partie, c'est une minute à peu près, et il a, au moment où il dit « bon bah tu utilises Adblock, moi je te bloque », et puis il fait une comparaison avec « je vais chez le boulanger, je prends un croissant et je ne le paye pas ». Ça a provoqué énormément de discussions. Et d'autant plus parce que Julien Chiez a ses défenseurs et ses pros et ses contres. Mais donc, ça a relancé un petit peu ce débat. Et moi, j'ai participé à la discussion en donnant mon avis. Et j'ai été assez surpris, voire déçu de constater que certains disent « Ah, mais on n'a pas le droit de me dire ce que je dois... On n'a pas le droit de m'imposer de regarder de la pub. Et donc, j'ai le droit d'utiliser Adblock. » Et il y a une déconnexion complète dans cette façon de voir les choses. J'ai eu plusieurs fois ce commentaire, hein, ce n'était pas juste une fois. Une déconnexion complète parce que l'idée, ce n'est pas qu'on vous impose de voir la pub, c'est qu'il y a une sorte de contrat qui est que si vous voulez voir ce contenu, bah, il y a de la pub. Et c'est comme ça qu'est rémunéré non seulement le créateur de contenu, parce que mais aussi la plateforme elle-même, YouTube, qui coûte très très cher, ou Twitch, sont rémunérés par la pub. Il y a des gens qui disent « Ah ben oui, mais enfin, Julien Chiez gagne déjà bien assez d'argent, donc il n'a pas besoin de la pub en plus. » D'une part, ce n'est pas à vous de décider qui gagne assez d'argent pour le payer ou pas. L'exemple
c'est de la
que
logique
souvent,
circulaire.
C'est,
ça, c'est...
Tu vas dans le kiosque, tu dis oh, bah, les journalistes, ils gagnent bien assez d'argent, donc je prends le monde du jour. Bah, non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, au-delà de ça, la pub, elle n'est pas faite que pour payer les créateurs de contenu, qui en ont besoin aussi, même si ce n'est pas du tout leur revenu, mais elle est aussi là pour payer tout ce système. Et la pub permet d'avoir accès. Enfin, ce qui me frustre beaucoup, c'est que cette pub, oui, on en abuse peut-être. J'avoue que sur Numérama, j'étais bien content de voir arriver Numérama Plus qui m'enlève la pub, parce que c'est vrai qu'il commençait à y en avoir beaucoup. On en abuse peut-être, mais ce n'est pas qu'on nous l'impose et que du coup, c'est une plaie sur notre vie. C'est que la pub nous permet d'avoir accès à du contenu gratuitement. C'est ça que ça permet. L'alternative, c'est pas on a le même contenu sans pub. L'alternative, c'est ce contenu est payant. Et on n'a plus accès au contenu. Donc la pub, oui, on en abuse, mais c'est une démocratisation de l'accès à ces services, à cette information, etc. Bref, bon. Il n'empêche.
On oublie des choses. C'est comme tu ne te poses pas la question de l'eau courante jusqu'au jour où il n'y a plus d'eau. Tu ne te poses pas la question de ce que coûte, par exemple, l'opération d'une plateforme comme YouTube. Personne ne se pose la question. Enfin, tu vois, tu cliques, ça marche, tu regardes des vidéos, c'est devenu comme l'air que tu respires. Alors évidemment, ça coûte une fortune absolue et il faut que tout ça soit financé. Donc je suis d'accord sur le côté. Alors je suis d'accord sur tout, c'est-à-dire sur le côté un peu casse-pied quand tu as l'impression qu'on te met quand même, tu vois, trois pré-rolls de suite et que c'est quand même bien long. Ça, c'est
je vous avoue que YouTube
ne
l'utilise
les...
pas sans premium. Hein. C'est pas possible. Je suis d'accord. La pub.
Non, mais c'est pas les pires, entre grosses guillemets. Les plus longs pré-rolls, c'est quand même sur les replays de chaînes de télé, etc. Ça fait beaucoup. Et d'accord sur l'espèce de contrat moral implicite, parce qu'il n'est pas explicite. C'est pas, attention, hein, si vous ne regardez pas la pub, vous ne regarderez pas mon contenu. Qui doit exister entre les créateurs de contenu et ceux qui les regardent. Mais c'est intéressant parce que c'est là que tu comprends pourquoi, par exemple, les revenus publicitaires en rapport à l'audience sont vachement plus hauts sur du podcast, par exemple. Parce que là où c'est facile de skipper un pré-roll ou d'attendre que ça passe, c'est plus dur de skipper. Tiens, par exemple, quand est-ce que c'est quand la dernière fois que tu as passé une bonne nuit de sommeil, Patrick ? As-tu pensé à changer de matelas ? Car cette semaine, avec le code Patrick, vous économisez 15% sur votre matelas Emma. Tu vois, voilà. Ça a quand même donné naissance à des modèles économiques publicitaires qui sont un peu plus proches, créatifs, etc. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai refusé le ciblage de la pub sur YouTube, c'est presque une expérience sociologique parce que finalement les pubs qui m'arrivaient avant étaient plutôt pas mal ciblées et là j'ai des pubs qui sont pas ciblées du tout. Alors ça donne deux trucs, ça donne des trucs qui sont complètement décalés, genre ah bah non, ça me concerne vraiment vraiment pas, alors voilà, et la chance de racler le bas de la cuve des pubs les moins chères sur YouTube. Je ne sais pas combien de pompes à chaleur on m'a proposé. Il se trouve que j'en ai déjà une. Donc, clairement, c'est pas bien ciblé. Et d'offres d'investissement pourries, etc. Je ne te raconte pas sur Facebook où là on est vraiment... On a creusé en dessous de la cuve. C'est-à-dire que tu as des trucs qui sont même juste pas légaux, d'ailleurs. Maintenant, quand je vois des pubs pour des trucs illégaux sur Facebook, quand même, je fais des captures. Parce qu'un jour, on en fera un recueil. Mais après... Ouais. C'est un peu tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire... Moi, je connais bien Julien Chiesse depuis bien longtemps, il venait dans mes émissions, etc. C'est un garçon dont je connais les qualités et l'enthousiasme, dirons-nous. Il se trouve que quand Julien Chiesse te dit, tu vois, ce matin, j'ai mangé des cornflakes au lieu de manger des chocopops, ça donne 400 messages de haine. donc, c'est un peu, microcosmique.
Marie, est-ce que la pub est inévitable ? Je sais que dans le groupe Humanoïde, vous avez justement montré qu'il était possible de faire du contenu de qualité avec de la pub. Bon, vous êtes passé chez Frandroid. Vous êtes passé chez Numérama à un modèle premium. Enfin, vous avez créé un modèle premium aussi.
Ouais.
Mais tu es sans doute la mieux placée d'entre nous, encore que Cédric était dans le game, mais tu es la mieux placée d'entre nous. Je ne me trompe pas en disant que la pub est indispensable.
En termes de revenus
Que le web existe tel qu'il est, finalement.
Ah oui, en termes de revenus pour tous les sites web, oui. En termes de revenus pour les médias, on remarque quand même que les gros médias, donc je ne sais pas, les, et Le Monde, Figaro, tout ça, gagnent de plus en plus d'argent avec les abonnements et avec les partenariats sponsorisés, plus qu'avec...
Non, c'est de la pub, un partenariat sponsorisé, non ?
Ah oui, en fait, là, on parle d'adblocker. Et du coup, pour moi, la programmatique, c'est-à-dire les bannières que vous voyez sur les sites Internet, c'est pas tout à fait la même chose qu'un article sponsorisé, parce que ça vient pas encombrer la lecture. Après, si on parle de tout en général, évidemment que la publicité est nécessaire. Nous, on a lancé Numérama Plus en ayant très bien conscience que ça allait pas nous remplacer notre source de revenus. Hein. Je pense qu'il nous faudrait... 50 000 abonnés ou un truc comme ça pour correspondre à des revenus publicitaires intéressants, sachant qu'en vrai, là, si on en a 1 000 ou 2 000 un jour, on sera hyper content parce que c'est pas du tout ce sur quoi on mise. Mais on voulait montrer qu'on peut avoir un site internet gratuit, c'est-à-dire sans paywall, mais montrer quand même que l'information a un coût. Et je pense que c'est le débat qu'on fait depuis des années sur les adblockers, et c'est aussi le débat là que vous aviez sur Julien Chiez, c'est que les gens ont tendance un peu à oublier que rien n'est vraiment gratuit et que oui, ils peuvent en vrai faire ce qu'ils veulent. Moi, j'avoue que je me vexerai jamais si quelqu'un me dit j'ai un adblock, sauf si c'est un journaliste de Numérama, ça c'est aussi du Numérama. Mais je sais qu'il y en a, et en vrai, moi, il y a des moments où j'en mettais un, mais quand même, il y a un moment, faut quand même se faire vivre soi-même, donc regarder les pubs. Donc on voudrait jamais aux gens d'avoir des adblocks, mais par contre il faut aussi comprendre de l'autre côté pourquoi est-ce qu'il y a des publicités. À la télé, on accepte qu'il y ait des coupures pubs sur le film de TF1, même si il y en a 3 fois plus qu'avant et que ça pose des questions sur la quantité et tout ça. La pub, on l'accepte dans plein d'endroits, mais dans la manière dont le web s'est construit, pareil, on a innové un petit peu sans imaginer, sans mettre de garde-fou dès le début, et puis maintenant on essaie de modifier les pratiques derrière. Donc par exemple, les gens sont pas très habitués à étaient pas très habitués à payer pour avoir de la musique, pour avoir des films, pour avoir de la presse. Maintenant on rame depuis 15 ans pour que enfin on commence à avoir des gens qui prennent le réflexe, quoi. Mais parfois, il faut passer par des mesures coercitives aussi, notamment pour les séries, les films, il y a quand même eu pas mal de... Bon, je dirais pas qu'Adopi a été très efficace, mais par contre, essayer d'uploader aujourd'hui un film en entier sur YouTube, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même pas mal de garde-fous, de droits d'auteur et de takedown assez immédiats. Donc ça pose ces questions-là, c'est toujours un peu les mêmes. Après, je trouve ça vraiment assez mesquin d'aller publier un extrait d'un live pour essayer de faire un mauvais buzz sur quelqu'un. C'est vraiment la partie d'internet qui m'intéresse plus du tout. Et je trouve que c'est vraiment très très mauvais esprit. En tout cas, ça sert vraiment pas à grand chose d'avoir fait ça.
Le pire, c'est que je suis même pas sûr que le but était de créer un buzz. Hein. Ça se trouve, c'est juste à regarder ce qui s'est passé.
Ouais.
Je sais pas. Mais du coup, pour conclure sur ce sujet, je vais poser un petit peu la question qui fait que je suis l'avocat du diable que tout le monde connaît, parce que j'essaye toujours d'aller contre mon instinct, au moins pour explorer l'idée. Est-ce qu'on peut, et c'est peut-être la question que j'aurais dû poser depuis le début, est-ce qu'on peut imaginer un web sans pub, et est-ce qu'il est souhaitable? Parce que pour moi, c'est compliqué de l'imaginer, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait imaginer un web qui fonctionnerait sans pub? Je continue avec Marie. C'est possible? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, on n'a qu'à faire d'autres choses.
Okay, mais... ça mettrait beaucoup de gens au chômage, je pense, en termes de rémunération et de création. Après, c'est un idéal qui est très intéressant et qui a... Je trouve que c'est aussi en ayant des idéaux un peu fous en tête qu'on arrive à justement reconsidérer certaines choses. Mais je t'avoue que là, j'ai pas réfléchi aux implications.
Ouais.
Je pense que c'est des initiatives qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait pu exister un web sans pub? Probablement. Est-ce que maintenant, on pourrait recréer un web sans pub? J'ai un peu des doutes, pareil sur quand je vois les mastodons et tout ça, c'est qu'en fait il y a des belles initiatives. Après, à l'heure aujourd'hui où t'as des énormes plateformes en situation quasi monopole, c'est hyper difficile de venir dire aux gens, finalement arrêtez d'utiliser ça. c'est d'arrêter d'utiliser votre plateforme simple qui vous permet de parler à tout le monde. Vous allez utiliser votre une plateforme un peu plus compliquée. Mais c'est la même chose pour tout, hein, pour la protection de ses données personnelles, pour tout. En fait, on a, c'est de plus en plus difficile, je pense, pour les gens de troquer la simplicité pour des valeurs. Et je pense que malheureusement, je ne veux pas être défaitiste parce que je suis plutôt optimiste dans la vie, mais je pense que ce serait un peu idéaliser les choses. Mais s'il y a des gens qui s'y retrouvent, tant mieux.
Mais même pas, tu dis pour de troquer le pratique pour les valeurs, peut-être qu'on pourrait imaginer un web sans pub qui juste pour la beauté de l'imagination, tu vois, est-ce que ça pourrait marcher
techniquement ? La beauté du concept.
Ouais, c'est ça. Cédric, ça pourrait marcher un web
sur le bénévolat ?
Ah ben, ça aurait même été la bonne idée si on l'avait fait dès le début. Je suis d'accord avec Marie. C'est dur de remettre le lapin dans le chapeau. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, finalement, non. on s'est habitué à la gratuité est devenue la norme, même si on le voit. Ça a été quand même, enfin, on en est presque à 30 ans de l'histoire d'un web qui cherche son modèle économique. Moi, j'ai le souvenir dans un média que je connaissais bien, qui voulait lancer un site d'information généraliste. Il y avait un consultant, je ne sais plus s'il était interne ou externe, enfin peu importe, qui avait fait un truc sur le marché de l'information en ligne et qui leur a dit, bon, en gros, si vous voulez lancer un média d'info généraliste sur Internet, vous vous lancez dans une mêlée de rugby à 40 où personne ne gagne d'argent. Donc c'est votre choix, mais en termes d'économie, je ne vous le conseille pas. Enfin, c'est, voilà, trouvez plutôt un moyen de monétiser des choses qui font que vous serez meilleur et différent, etc. Et c'est pour ça que tu vois aussi... Il y a peu de grands médias généralistes qui s'en sortent bien, sauf quand ils sont... si tu veux, tu vois, en haut de l'affiche, c'est un New York Times, Le Monde, etc. Ouais. C'est évidemment beaucoup plus facile, mais tu t'aperçois que leur argent, genre le New York Times, je ne sais pas quelle est la part de l'argent qui vient de la pub, ça doit faire de l'argent, mais ce n'est pas l'essentiel de leur business maintenant, c'est plutôt de trouver de nouveaux moyens de t'abonner, et de t'abonner d'ailleurs plusieurs fois, à la fois pour le New York Times, le journal, et puis pour les recettes de cuisine, etc., te fidéliser. On en vient de fait à imaginer à quoi aurait ressemblé un web où les choses auraient été payantes, avec, il ne faut pas oublier, le problème, si tu veux, le péché originel, c'est qu'au début du web, on ne savait pas payer. Enfin, c'était très compliqué. Et tout le monde cherchait des trucs en disant, bon, on va inventer des systèmes de micro-paiement, des choses qu'on n'a pas trouvées à l'époque. Si elles avaient existé ou si elles avaient été consubstantielles du protocole HTTP, par exemple, peut-être que le web serait très différent aujourd'hui et tu serais juste en train de dire, tiens, je vais regarder cette vidéo, ça va me coûter 2 centimes. Et tout le monde est content, tu vois ce que je veux dire?
Oui. Ouais, alors peut-être qu'il y aurait une solution comme ça. Les microtransactions, je ne suis pas convaincu. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le web gratuit a existé. Il a existé pendant très longtemps. Et c'est une certaine forme de web qui est intéressante, mais qui n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Et là où il y a beaucoup de choses intéressantes à faire dans le domaine du passion et de la bénévolat, dans le domaine de la passion et du bénévolat plutôt, et je l'ai vécu ce web, moi. Je l'ai vécu dans les années 90 et au début des années 2000. C'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une richesse, une professionnalisation, ce qu'on aime dans le web aujourd'hui n'existait pas quand il était gratuit et passionné et tout ça. Et du coup, pour moi, le web, je réfléchissais en vous écoutant, le web sans pub, c'est un web où il y a des créations de par passion qui ont leur valeur, mais qui ne sont pas du tout aussi intéressantes que celles qu'on a aujourd'hui. Et d'un autre côté, un web payant, et le web payant qui est du coup inaccessible. C'est vraiment, moi, je reviens sur cette idée que la publicité est un démocratisateur d'accès. C'est vraiment la publicité qui fait qu'on peut avoir accès à des contenus, alors des bons ou des moins bons, mais sans ça, l'accès est hyper segmenté et conditionné au transfert de valeur, au paiement. Et d'ailleurs, le modèle mixte qu'on est en train de recréer aujourd'hui avec la pub et les abonnements, la pub d'une part et les abonnements d'autre part, il existait avant le web. Et c'est ça qui a été hyper disrupté par ce web gratuit qui a dévoré tout ce qui existait dans les médias. Mais il existait avant. Là, tous les magazines, toute la presse de la Terre, c'était des trucs qu'on payait, dans lesquels il y avait de la pub, et ça fonctionnait pas trop mal. Et donc, cette dualité, il y a eu ensuite des magazines gratuits, etc. Mais je trouve que pour tous les défauts qu'on a aujourd'hui avec le modèle du web gratuit et payant, on a quand même énormément de qualité, de contenu d'une énorme qualité qui sont accessibles pour rien, quoi. Enfin, pour le fait d'avoir des articles encombrés un peu par de la pub. Ce qui est un sacrifice, finalement, quand on prend un tout petit peu de recul, qui est, à mon sens, pas aussi énorme que certains le pensent. Même s'il existe. Je conclurai en disant que l'épisode précédent, on a parlé de Free et de la Freebox Ultra. Je me suis fait remonter les bretelles, gentiment, sur Twitter, par le compte FreeLit, qui émane de Free, parce qu'il se trouve que le Wi-Fi 7, bah, y a déjà des appareils sous Wi-Fi 7. Je disais dans l'émission, ah oui, mais enfin, le Wi-Fi 7, il vient d'être... Standardisé, merci. Et donc, ça va arriver dans l'année. Oui, bien sûr, il y avait des constructeurs qui avaient sorti leur truc avant standard, des téléphones notamment. Donc, c'est vrai, mea culpa, vous aviez raison. Bon, il n'y a pas d'iPhone, donc est-ce qu'un truc existe vraiment, une technologie compte vraiment avant que l'iPhone ne l'ait intégré? Je vous laisse.
Attends, septembre, c'est pas...
Non, mais ça, c'est certain, évidemment. Bon, on conclut cet épisode. Il y aura eu des conversations nombreuses et intéressantes. Merci à tous les deux. Et si les auditeurs veulent en avoir un petit peu plus, dis-moi Marie, où peuvent-ils aller? Je pense qu'on aura compris que c'est Numérama, mais
en effet, ils peuvent aller sur numérama.com et en plus, on a plein de comptes de réseaux sociaux maintenant, moi aussi, et je n'en peux plus d'ailleurs, sur Threads, sur Blue Sky, sur Twitter, c'est sur dur. Instagram. Suivez-nous là où vous voulez, sauf dans la rue, et puis on fait comme ça.
Très bien. Merci Marie, Cédric.
Merci à vous, c'était chouette.
Merci Marie. @Cédric sur Twitter, tant que ça existe. @C2Ric avec un 2 comme le chiffre sur Blue Sky. Mais c'est vrai que j'y vais moins. Je pense qu'il y a j'ai l'impression de ne pas être le seul. C'est-à-dire que... Mais c'est curieux parce qu'à chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression que les gens sont plus heureux quand même là-bas que sur Twitter. Moins nombreux, il y a moins d'interactions. Enfin voilà, bon.
Tu sais, les conversations sur. Marie, si tu dois y aller, je sais que tu dois filer.
Donc, yes, je vais y aller.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bon. Mais les conversations sur le truc sur Julien Chiez, là, dont je te parlais, et il y a eu un autre, une discussion assez longue, assez agitée sur dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il faut faire des traces jaunes pour guider les gens ou pas? Ça a eu lieu sur Twitter, pas ailleurs. C'était pas sur Blue Sky, c'était pas sur Threads.
Ah bah c'est encore là que se déroule nombre de conversations, mais qui dérapent quand même. Enfin c'est.
C'était
terrifiant. Hein.
J'ai mis le doigt dans l'univers de bon, on aura beaucoup cité Julien aujourd'hui. Et bon sang, mais c'est vraiment à rendre dingue quoi. Moi je suis dans un univers qui est tellement plus bienveillant et calme et réfléchi dans les podcasts. C'est des gens qui sont, je ne le fais pas vous envoyer des fleurs, mais des gens qui ont voulu écouter l'émission, qui ne sont pas tombés dessus par hasard. Et donc, on a des réflexions, le Discord est sympa, etc. Là, c'était des gens qui lançaient pas que des invectives, mais juste des certitudes qui n'ont aucun sens. « Oh, c'est comme ça !» Mais d'où sors-tu et je sais que ça existe, mais c'est différent de l'avoir...
Du forum jeuxvideo.com, voilà d'où ils sortent. Voilà.
Oui, c'est un petit peu ça.
Voilà.
Bref. Merci Cédric. Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir.
Je vais te laisser filer aussi, et puis je vais conclure avec donc ces petits détails avant de retourner au quotidien. Merci beaucoup Cédric, on se retrouve dans un mois. Et j'ai bien vu ton mail, je te réponds.
T'inquiète, tout va bien. Ouais, t'inquiète.
Merci beaucoup.
Salut.
À très vite. Ciao Cédric. Et donc, pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Hein, vous le savez, vous me connaissez. C'était bizarre, là. J'ai fait une petite parenthèse dorée. C'était bien sympa de parler de tech et de penser à autre chose. Je veux revenir un tout petit peu sur ce qui se passe donc dans ma vie, un tout petit peu. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, vous le savez, on vit ensemble depuis longtemps, depuis presque 20 ans maintenant que j'ai commencé les podcasts, et on a cette relation particulière, parasociale, c'est le terme officiel, mais il y avait quelqu'un, on en parlait il y a quelques années déjà, et quelqu'un disait... on est en fait pas tout à fait les podcasteurs et les créateurs de contenu que vous suivez beaucoup, mais en particulier les podcasteurs, on a une relation très intime. On n'est pas tout à fait de la famille, pas tout à fait des amis, mais pas tout à fait juste des connaissances non plus. On est ensemble tellement souvent, on passe tellement de temps ensemble. Et donc, et de l'autre côté, moi j'interagis, alors en particulier avec le Discord ou les réseaux sociaux, mais surtout le Discord, beaucoup avec vous, mais il y a des gens qui m'envoient un petit mot de temps en temps et vous êtes nombreux, et ça fait, ça compte quoi. Donc il y a une vraie relation et qui n'est pas juste à sens unique. Donc pour cette raison, je voulais vous en dire un tout petit peu plus, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais vous en dire un tout petit peu plus. Et puis, aussi parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça va affecter la suite de mon travail, j'espère pas trop, hein. Moi j'espère que ça sera géré de manière à ce que ça n'affecte pas, mais on ne sait jamais, et puis comme ça vous saurez. Donc ce qui s'est passé... Donc il y a deux semaines, il y avait ce décès dans la famille, quelque chose d'important qui nécessite pas mal de choses. Et puis j'ai eu deux, trois autres coups de pelle. Les gens qui ont lu la newsletter savent que j'ai passé vendredi à l'hôpital. En fait, vendredi matin, il y avait des petits soucis avec ma fille depuis un moment. Et vendredi matin, je me dis, bon, bah là, il faut que je l'emmène à l'hôpital, il faut qu'on voit ce qui se passe. Donc j'emmène mon fils à la crèche et puis je vais à l'hôpital. Je me suis dit, je serai de retour à la maison pour travailler, pour envoyer la newsletter justement dans 2 heures. Finalement, ils font quelques tests et ils me disent, ah non monsieur, il faut aller à un autre hôpital pour faire plus de tests. Il est à 1h30. Et ma femme était en Suède, elle était en train de revenir, elle m'a rejoint, enfin bref. Et on est resté 12 heures avec la petite qui n'a pas encore 3 ans à l'hôpital. Et je pense que, comme je disais dans la newsletter, tous les parents connaissent ces situations hyper difficiles, et même les non-parents sans doute bien, mais avec la petite qui est dans l'hôpital, avec les salles d'examen, les machins, les échographies et les scans et les radios et tout ça, et qui est toute intimidée, qui a peur, mais elle a été super gentille, elle a été adorable. On a été au McDo après, hein, à 9h du soir, quand on est ressorti, on a été au McDo, elle a eu des frites, elle était contente. Et bon, le plus grave, le pire scénario est évité, donc il n'y a pas de danger immédiat. Il y a quand même une situation qui devrait, on l'espère, se rétablir. Je pense encore qu'elle va se rétablir dans les semaines et les mois à venir. Mais il faut suivre et on a tous les quelques jours des prises de sang et des examens. Avec encore une fois, il y a des gens qui ont été dans cette situation, je suis sûr, parmi les auditeurs et chez vos proches, avec l'angoisse de ces résultats, ils sont à combien là ? On est à combien de tel chiffre et de tel chiffre ? Et bon, en attendant, elle est à la maison, elle ne peut pas aller à la crèche, elle va y être encore pendant quelques jours au moins, on espère que ça va aller mieux, mais... Donc ça, c'est le deuxième coup de pelle. Et puis... Le samedi, donc, je la ramène pour faire un autre examen. Le soir, moi, j'ai un souci, je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, heureusement, rien de dramatique, mais il y a aussi un truc qu'il faut suivre qui nécessitera sans doute une intervention. Certainement, d'ailleurs, une intervention, mais bon, là, ce n'est pas la priorité. Ma femme, au boulot, a des soucis aussi. Enfin, bref, il y a eu je vous dis les coups de pelle et le genre de truc, un seul, c'est gérable. Quand on a 3 ou 4 en 2 semaines, j'en parlais avec un ami sur Twitter, je disais, je suis dans une situation où c'est quand même particulièrement stressant, oppressant, et c'est surtout que je me dis, je veux pas me laisser le loisir de m'asseoir et d'y réfléchir, parce que si je m'assois, je suis pas sûr de me relever là. Donc voilà, je continue à bosser, je continue à faire les trucs, enfin il y a rien à faire de toute façon, il y a qu'à attendre, il y a qu'à gérer les 1000 balles qu'on a, enfin non, les 3-4 trucs à jongler en même temps. C'est pas facile, mais bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et puis, encore une fois, je veux dire, ce qui est on a évité les pires scénarios, quoi. C'est pas des trucs où je vais vous dire « Oh mon Dieu, il y a tel truc catastrophique, tragique, machin. » Non, là, on est dans l'expectative, on attend et j'espère que tout va aller mieux et tout. Donc, bon, je gère. Si jamais ça affecte les programmes, bah, je vous dirai, mais pour le moment, ça gère encore. Et je vous avoue que là, faire une heure d'émission à parler avec Marie et Cédric et parler d'autres choses... mine de rien, ça m'a fait du bien. On verra si je pourrais le gérer comme ça à l'avenir aussi. Et alors, juste comme on parlait de ces sujets ces derniers temps, le fait que vous soyez là aussi est important. Je fais un boulot, je parlais de la pub et de la rémunération et tout ça. Bah mine de rien, c'est dans ces situations aussi que ça joue. Je me dis au moins, là, ça va. Je suis... j'ai pas à m'inquiéter de ce genre de choses. Et il y a d'autres choses aussi qui se passent cette année qui sont compliquées à gérer. Pas problématiques, mais compliquées à gérer. Et vous êtes là depuis 10 ans. Et ça me tranquillise de ce point de vue un petit peu quand même. Donc... Et c'est pour ça aussi qu'on est proche et que je suis pas... J'imagine que les gens comme les YouTubers et les gens qui créent sur Twitch, ou peut-être que sur Twitch, c'est uniquement... Ils sont proches aussi, mais nous, on a une relation qui fait que je suis à l'aise dans ce que je fais, et je suis à l'aise dans l'idée de vous en parler, et je sais qu'il y a de la bienveillance et du soutien, donc... Patreon ou pas Patreon, merci d'être là. Et de faire partie de cette communauté. Je vous fais des gros bisous. J'espère que on sera là mardi pour le rendez-vous jeu. Jeudi pour le rendez-vous jeu et mardi prochain pour le rendez-vous tech. Je vous fais de grosses bises. Et puis, on se tient au courant. On va dire ça comme ça. À très vite. Ciao. On va quand même faire le générique. Hein. Allez, c'est le rendez-vous tech, ça va, tout va bien. Tout va bien. On essaye de s'en convaincre. Ciao, ciao. Ça ira mieux la semaine prochaine.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.